RFI, il est 20h à Paris, 19h en temps universel.
Juliette Pietraszewski.
À la une de ce journal, dans la bande de Gaza, 3 otages israéliens libérés et des premiers camions d'aide qui arrivent. La trêve entre le Hamas et Israël est en vigueur depuis ce matin. Nous irons au point de passage de Rafah entre l'Égypte et le territoire palestinien où désormais des véhicules humanitaires circulent. Et alors que les réactions internationales se font entendre, cette question pour les Palestiniens, est-ce le début de la reconstruction ? Analyse à suivre dans un instant. Dans l'actualité également, J-1 avant l'investiture de Donald Trump aux États-Unis, à l'intérieur du Capitole, 600 places où des dirigeants étrangers sont invités et où d'autres personnalités ont payé pour avoir leur place. Et puis en France, François Hollande et Jean-Luc Mélenchon réactivent la guerre entre le Parti Socialiste et les Insoumis. Les détails en fin de journal. La trêve à Gaza est en vigueur depuis ce matin, avec près de 3 heures de retard sur l'horaire initialement prévu. Le Hamas s'attardait à fournir la liste des 3 israéliennes qui ont finalement été libérées dans la bande de Gaza. Vers 16h, temps universel, l'armée israélienne a annoncé qu'elles étaient arrivées en Israël. Elles ont retrouvé leurs proches ce soir. De son côté, le Hamas a déclaré attendre sous peu l'arrivée de 90 prisonniers libérés par Israël dans le cadre de l'accord. L'aide humanitaire est également entrée à Gaza, 15 minutes après le début du cessez-le-feu. Alice Moreno, vous êtes à Rafah, point de passage entre la bande de Gaza et l'Égypte, où les camions chargés d'aide affluent.
C'est un balai incessant de camions qui franchit le poste frontière de Rafah. Chargés de nourriture, de gaz, d'essence, les conducteurs des véhicules klaxonnent volontiers au passage de la frontière pour célébrer la reprise de l'acheminement de l'aide humanitaire. Nous allons enfin pouvoir apporter l'aide à nos frères palestiniens, me confiait un de ces conducteurs. Ils vont pouvoir vivre, revivre un peu. Ces scènes sont immortalisées par des dizaines de caméras. Les autorités égyptiennes ont organisé un voyage presse au poste frontière de Rafah, normalement interdit aux journalistes. Et l'État égyptien compte bien insister sur son rôle dans l'acheminement de l'aide à Gaza. Plus de 200 camions ont franchi aujourd'hui Rafah en direction de Kerem Abou Salem et Netzarim sur le territoire israélien où ils seront soumis à un contrôle des autorités israéliennes avant d'entrer dans Gaza. Alice Moreno à Rafah pour RFI.
Et des milliers de déplacés palestiniens prennent déjà le chemin du retour vers la bande de Gaza ravagée par 15 mois de guerre et dont le bilan est près de 47 000 morts selon les chiffres du Hamas. Alors cette question, qu'est-ce que le cessez-le-feu représente pour les Palestiniens? Est-ce le début de la reconstruction? Guillaume Ancel, ancien militaire, auteur du blog « Ne pas subir » et du livre « Saint-Cyr, l'école de la Grande Muette », était notre invité ce midi.
Pour les Palestiniens, c'est évidemment un immense soulagement. On n'arrive pas à imaginer ce que c'est que d'avoir subi plus de 100 000 bombardements. Normalement, un bombardement fait au moins un mort et 3 blessés ennemis. Par conséquent, on a au moins autant de morts et de blessés. Donc pour les Palestiniens, le fait que ce pilonnage intensif qui durait encore ce matin, jusqu'au début de la trêve, s'arrête, c'est déjà un immense soulagement. Toute la question du jour d'après, de la reconstruction, est nettement plus complexe parce que il faudra d'abord résoudre le problème de la gouvernance.
Oui.
Qui va contrôler Gaza? Et ensuite, seulement quand la situation politique sera stabilisée, on pourra commencer à reconstruire un pays qui a été complètement dévasté et pollué par cette guerre. Il y a des milliers d'explosifs qui n'ont pas fonctionné. Tout est pollué jusqu'à l'eau. Donc, c'est une reconstruction énorme qui nécessitera, à mon avis, au moins une décennie et des dizaines de milliards de dollars.
Voilà pour ces propos de Guillaume Ancel, ancien militaire, auteur du blog « Ne pas subir » et du livre « Saint-Cyr, l'école de la Grande Muette ». Il était l'invité de Charlotte Hydrac ce midi sur RFI. Et parmi les réactions internationales depuis la mise en vigueur de cette trêve à Gaza, Olaf Scholz, le chancelier allemand, a appelé ce dimanche à s'engager en faveur d'un État palestinien coexistant en paix avec l'État d'Israël. Le Premier ministre britannique Keir Starmer salue une nouvelle fantastique après des mois de supplice. Le président américain sortant, Joe Biden, s'est lui félicité que le Proche-Orient soit une région profondément transformée grâce à l'accord de trêve et la libération des otages. Le pape François a également appelé au respect immédiat du cessez-le-feu. Le président français Emmanuel Macron s'est lui entretenu avec le dirigeant palestinien Mahmoud Abbas par téléphone ce samedi. Information transmise par l'Élysée aujourd'hui. Emmanuel Macron a souligné lors de cet entretien l'importance de pouvoir restaurer une gouvernance palestinienne à Gaza impliquant pleinement l'autorité palestinienne. Fin de citation. Déclaration qui intervient alors que Mahmoud Abbas avait annoncé vendredi que l'autorité palestinienne était prête à assumer pleinement ses responsabilités dans la bande de Gaza contrôlée par le Hamas. Aux États-Unis, TikTok remercie Donald Trump et annonce qu'il va rétablir l'accès à son application. Le réseau est inaccessible aux États-Unis depuis aujourd'hui. La loi votée au Congrès en 2024 est entrée en vigueur ce dimanche, rendant inaccessible la plateforme. Le texte prévoit la possibilité pour le chef de l'État de repousser la mise en œuvre de 90 jours, le temps de trouver un acheteur. C'est une alternative offerte à la maison mère de TikTok. Et sur ce point, Donald Trump a annoncé qu'il allait donc suspendre la loi sur TikTok ce lundi, jour de son investiture, et proposer un actionnariat américain à 50% pour la filiale aux États-Unis. Et alors que Donald Trump s'apprête à revenir à la Maison-Blanche, son investiture prévue demain donc a été déplacée à l'intérieur du Capitole pour des raisons météo. Il n'y a que 600 places pour accueillir les représentants et dirigeants étrangers qui ont été invités. Des personnalités ont également payé pour participer. Le comité d'investiture du président élu a reçu 170 millions de dollars pour sa prestation de serment. C'est un record. Les Américains fortunés ont donné de très grosses sommes d'argent dans l'espoir d'obtenir quelques faveurs, Carlotta Morteo.
1 million de dollars, c'est la somme versée au comité d'investiture de Donald Trump par les géants de l'automobile, Ford, General Motors, Stellantis, Toyota ou les leaders de la tech, Google et Microsoft. C'est le double de ce qu'ils avaient donné à Joe Biden et à ce prix, ils auront le privilège de s'entretenir brièvement avec le président américain et son vice-président J.D. Vance. Les multinationales craignent par-dessus tout les droits de douane que veut imposer Donald Trump au Mexique ou à la Chine, des pays où de nombreuses entreprises américaines ont des usines et des activités. Les grands patrons réussiront-ils à convaincre un président dont on dit qu'il a une vision transactionnelle de la politique ? L'un des plus généreux donateurs, Tim Cook, à la tête d'Apple, avait réussi lors du premier mandat Trump à obtenir des exemptions de taxes pour les produits de la marque à la pomme. Déjà très influents, les patrons de Amazon, Meta, OpenAI ou Uber ont contribué à titre personnel des sommes à 7 chiffres, de quoi leur ouvrir les portes du dîner aux chandelles et des bals fastueux. D'autres, qui ont préféré rester anonymes, ont payé des sommes tout aussi mirobolantes, alors même qu'ils ne pourront pas y participer, car l'événement affiche complet depuis plusieurs semaines.
Les précisions de Carlotta Morteo. En Colombie, le bilan des récents affrontements impliquant la guérilla de l'Armée de Libération Nationale, l'ELN, dans le Nord-Est, a grimpé à plus de 80 morts, a annoncé ce dimanche le gouverneur local. Dans cette région colombienne frontalière du Venezuela, l'ELN mène depuis jeudi des attaques contre la population civile et des dissidents de l'ancienne guérilla des FARC. Le précédent bilan des autorités communiqué par le bureau du médiateur colombien faisait état d'environ 60 morts. En France, le Parti socialiste n'a donc pas voté la censure contre le gouvernement Bayrou déposé par LFI cette semaine. Et depuis, rien ne va plus entre les deux partis alliés au sein du nouveau Front populaire pour les dernières législatives. Ce dimanche, ce sont deux figures de la gauche, l'ancien président François Hollande et le chef des Insoumis Jean-Luc Mélenchon, qui se sont affrontés à coups de noms d'oiseaux et sur fond d'ambition présidentielle, Valérie Gasse.
Jean-Luc Mélenchon est comme Madame Irma, ses prophéties ne se réalisent jamais. Des mots rudes de François Hollande dans un entretien à la Tribune dimanche qui cible son adversaire insoumis et touche juste. Quelques heures plus tard sur RTL, Jean-Luc Mélenchon se rebiffe.
C'est du François Hollande signé. Cet homme est une machine à tromper. Et là, d'abord, il commence par quelque chose qui ne se fait plus en politique. Je me permets de le lui rappeler puisqu'il vient de le sortir d'un naphtaline très récemment. On ne compare plus un homme à une femme pour dévaloriser un homme.
Tacle contre tacle, la relation est épidermique entre l'ancien président François Hollande et celui qui aimerait le devenir, Jean-Luc Mélenchon. Mais ce qui est en jeu derrière les formules acerbes, c'est le leadership à gauche. Le changement de stratégie du PS acté par la décision de ne pas voter la censure a ouvert la porte à une remise en cause de la domination de LFI au sein du NFP, l'alliance électorale de la gauche, et François Hollande a voulu enfoncer le clou. Jean-Luc Mélenchon ne s'y est pas trompé, il a senti le danger et a affirmé que le PS n'était plus un partenaire, mais surtout, il a menacé.
Il y aura des candidats de la gauche de rupture dans toutes les circonscriptions.
Sous-entendu, contre les socialistes, en cas de législative, la guerre est déclarée, reste à savoir vers qui iront les autres alliés écologistes et communistes.
Les précisions de Valérie Gasse. En France, toujours, le ministre de l'Intérieur, Bruno Retailleau, a assuré que le gouvernement Bayrou allait toucher à l'aide médicale d'État. Ce dispositif permet à des ressortissants étrangers sans titre de séjour régulier de se soigner. C'est un sujet du projet de loi de financement de la sécurité sociale, a ajouté Bruno Retailleau sur l'émission BFM Politique ce dimanche.